franceinter.fr.
Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Ouvrir le dialogue et avancer dans les propositions, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, prévient sur France Inter qu'en cas de blocage, les violences pourraient renaître. Il sera mardi aux côtés d'Emmanuel Macron pour rendre hommage au préfet Erignac. Ce matin, le numéro 1 de La République En Marche, Christophe Castaner, a désavoué les élus macronistes de Lille qui avaient voté avec les nationalistes. Un procès hors norme à Bruxelles demain, la première comparution publique de Salah Abdeslam, le seul survivant des attentats de Paris en novembre 2015. Il comparaît pour une fusillade en Belgique à Forêt, 3 jours avant son arrestation. La Macédoine est une province grecque. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues d'Athènes ce dimanche contre l'appellation Macédoine que voudrait conserver l'ancienne République yougoslave située au nord du pays. 3-1 pour la France en Coupe Davis. Adrian Manarino a rapporté tout à l'heure le point qui manquait encore. La France est donc qualifiée pour les quarts de finale. 46-15 pour les Anglais à Rome dans le dernier match de la première journée du tournoi. Un tournoi mal commencé pour les Bleus face à l'Irlande hier. Des Bleus solides en défense, mais qui devront progresser en attaque. Et puis la bataille pour le podium qui continue en Ligue 1 de football. Lyon se déplace ce soir à Monaco. Victoire cet après-midi de Guingamp à Rennes 1-0 et de Caen face à Nantes 3-2. Le journal des sports avec Sarah Mansoura dans un instant. Juste après la météo, le retour du grand froid. 12 départements du grand quart sud-est en vigilance orange, neige et verglas. Les inondations, toujours d'actualité, de la Seine-et-Marne à la Seine-Maritime. Ils l'ont fait exprès, forcément, pour le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, invité de questions politiques à midi sur France Inter. La préfecture de police a sciemment sous-estimé les chiffres de la manifestation d'hier à Ajaccio, en comptant au maximum 6000 personnes. Des chiffres très en deçà de la réalité pour lui, qui a vu 10, 12, 18 000 manifestants. Et à Paris, dit-il, on sait que cette manifestation a été une réussite. Autrement dit, pour Emmanuel Macron, qui sera mardi et mercredi en Corse, il n'y a plus qu'à ouvrir vraiment le dialogue et avancer de vraies propositions, vraies du point de vue des nationalistes, ce qui n'est pas acquis, loin de là. Ce matin, le numéro 1 de La République En Marche, Christophe Castaner, a désavoué les élus locaux du mouvement présidentiel, les 6 élus macronistes de l'Assemblée de Corse qui avaient voté vendredi une résolution des nationalistes en expliquant qu'ils étaient libres de leur choix mais n'exprimaient pas la position du parti.
Ils n'ont pas voté une position qui est celle de La République En Marche.
D'accord. Ils se sont trompés de vote, vous voulez dire ?
Ah, ils se sont pas trompés, ils sont libres. Vous savez, le mandat impératif n'existe pas dans notre pays.
Ça rappelle à l'ordre,
ils ont été
élus.
Je suis pas là pour rappeler à l'ordre. Je suis là pour...
Vous dites qu'ils n'auraient pas dû voter, ils n'auraient pas dû voter cette résolution.
Ah, mais ce que je dis, c'est qu'elle n'est pas conforme au discours du président de la République qu'il a tenu à Furiani, qui est celui de reconnaître une très grande particularité, une très grande spécificité de la Corse. La Corse, qui fait la taille de 2 départements alpins, ça n'est pas 2 départements alpins. C'est la Corse, avec sa culture, avec son identité, avec sa revendication d'autonomie dans la République.
Mais eux, ils réclament une mention spécifique de la Corse dans la Constitution. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable ?
Mais le président de la République, à Furiani, a dit « On peut aller le plus loin possible dans l'autonomie, pour l'autonomie, dans la République. » La Constitution française le permet.
Christophe Castaner sur LCI. Le premier acte du président de la République en Corse après-demain sera de rendre hommage au préfet Claude Erignac, assassiné il y a 20 ans. Le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, sera présent. Il l'a dit également à midi sur France Inter. Il est de sa responsabilité d'y être pour des raisons symboliques et politiques. Mais attention, dit-il, en cas de crise ou de blocage, il pourrait y avoir des violences, sous-entendues violences dont le gouvernement serait responsable. En politique, également 2 élections locales dont les résultats auront valeur de test à Pontoise et Belfort, 2 législatives partielles dont le second tour ce dimanche offrait un double duel entre La République En Marche et Les Républicains, avec un avantage pour la candidate En Marche dans le Val d'Oise, au contraire du territoire de Belfort, où le candidat républicain était largement en tête au premier tour, Élodie Forêt.
Oui, 39% des voix dimanche dernier pour Yann Boucard, le candidat LR, contre un peu plus de 26% pour le MoDem Christophe Grudler, soutenu par La République En Marche. Et selon les résultats partiels qui nous arrivent, ce résultat se confirme. Yann Boucard serait largement en tête sur un tiers de la circonscription. Le tout avec, comme la semaine dernière, un taux de participation vraiment faible. Dans le Val d'Oise, pas de chiffre encore. Les bureaux de vote ferment à 20h. Mais comme à Belfort, peu de chances que le taux de participation s'envole. Dimanche dernier, 1 électeur sur 5 seulement s'est déplacé pour départager la marcheuse Isabelle Müller-Quoi du candidat LR Antoine Sauvignat. Une élection qui intéresse donc peu les électeurs, mais scrutée à la loupe par les deux partis concernés qui ont envoyé cette semaine leur poids lourd à Pontoise. Laurent Wauquiez plus Valérie Pécresse pour la droite, Édouard Philippe et Christophe Castaner pour La République En Marche. Le parti présidentiel qui le sait, nous sommes dans un premier test, le premier moment où l'on peut voir si les Français adhèrent ou non aux réformes d'Emmanuel Macron. La République En Marche lucide. Si le Val-d'Oise est perdu, ses adversaires ne manqueront pas d'en faire le symbole d'une perte de confiance.
France Inter, Yves Decamps.
Il comparaîtra demain pour la première fois dans un procès public et sous haute sécurité. Salah Abdeslam, le seul survivant des attentats de novembre 2015 à Paris, sera jugé à Bruxelles pour tentative de meurtre sur des policiers belges et français. Avant de répondre de son rôle dans les attentats de Paris et peut-être aussi de Bruxelles, Abdeslam, 28 ans, va devoir s'expliquer sur la fusillade de Forêt en 2016. C'était juste avant son arrestation. Et c'est un procès peu ordinaire qui s'annonce. Un procès dont l'accusé principal devra chaque jour traverser la frontière, Sarah Guibaudot.
Pendant les 4 jours de procès, Salah Abdeslam doit être amené de la prison de Vendin-le-Vieil dans le nord de la France, où lui a été aménagée une détention hors norme, comme à Fleury-Mérogis, vidéosurveillance 24 heures sur 24 et isolement total. Le transfert se fait sous protection des unités d'élite des forces de l'ordre, et s'il y a la moindre alerte ou encombrement sur la route, le détenu le plus surveillé de France prendra l'hélicoptère. À Bruxelles, l'accès au vieux palais de justice est particulièrement filtré, quartier bouclé, fouille obligatoire y compris pour les magistrats. Dans la salle du tribunal correctionnel, en revanche, Salah Abdeslam sera traité comme un prévenu ordinaire au premier rang face au juge. Il est jugé pour tentative de meurtre sur des policiers français et belges à qui il avait échappé une semaine avant les attentats de Bruxelles, avec Sofiane Ayari qui comparait à ses côtés. Lui aurait combattu au sein du groupe État islamique avant de rentrer par la route des migrants avec d'autres membres des commandos terroristes. L'enjeu de ce premier procès est donc surtout de voir si les deux hommes brisent le silence qu'ils observent tous les deux depuis des mois.
Et tous deux risquent jusqu'à 40 ans de prison. Quand un voisin du ministre de l'Intérieur était recherché par la police, c'est le journal Le Progrès qui racontait cette drôle d'histoire. Un militant d'extrême droite réputé violent et qui logeait dans la même rue que Gérard Collomb, condamné en juillet 2016 à 1 an de prison pour violence aggravée. Logan Djian, un ancien leader du GUD, mouvement d'extrême droite bien connu, avait quitté la capitale pour s'installer à Lyon dans le 5e arrondissement où il avait emménagé dans la rue de Gérard Collomb qui était alors le maire de Lyon. Les services de renseignement ne l'ont repéré qu'à l'automne dernier lors d'une enquête sur le voisinage du ministre et Logan Djian a aussitôt été incarcéré. À l'étranger, vive la Macédoine grecque. Ils sont descendus par dizaines de milliers dans les rues d'Athènes pour appeler le gouvernement à ne pas transiger sur le nom de leurs voisins du Nord. La Macédoine, donc, qui voudrait continuer à s'appeler ainsi, un droit que lui dénie une grande partie des Grecs qui préfèrent appeler l'ancienne République yougoslave du nom de sa capitale, Skopje. Car la Macédoine est le nom d'une province grecque chargée d'histoire. C'est le pays d'Alexandre le Grand et donc pas question pour l'opposition et au-delà de l'opposition pour une majorité de l'opinion, pas question de composer sur ce point, comme souhaiterait le faire le gouvernement de Tsipras à Athènes, Angélique Kourounis.
140 000 selon la police, 10 fois plus selon les organisateurs. La manifestation contre tout compromis sur la question du nom de la Macédoine a battu son plein aujourd'hui à Athènes, paralysée pour l'occasion. Le discours enflammé du compositeur Mikis Theodorakis a légitimé ce rassemblement. Tout en se dégageant de toute approche raciste, fasciste ou extrémiste, il a exprimé ses peurs vis-à-vis de l'ex-république yougoslave de Macédoine, selon la formule consacrée.
En vérité, Skopje, en utilisant le mot Macédoine, veut élargir ses frontières nationales, aux dépens des nôtres. Pour la création de la soi-disant Macédoine de la mer Égée, ils ont cet objectif depuis des décennies, et c'est un but majeur de ce pays voisin.
Des représentants de l'Église lui ont succédé sur l'estrade dans un discours traduit en langage sourd-muet. Ils ont appelé à l'unité au-delà des partis, un message bien reçu par les manifestants.
Il n'est pas question ici de querelles de partis. Nous sommes tous grecs, on parle de notre intégrité territoriale, point final.
Mikis Theodorakis a appelé les députés à refuser tout compromis et à organiser un référendum sur la question, d'où l'importance de tenir ce rassemblement devant le Parlement. Le gouvernement, de son côté, a préféré minimiser cette manifestation en soulignant qu'on était très loin du raz-de-marée annoncé. Athènes, Angélique Couronis, France Inter.
Et cela fait 25 ans que la Grèce s'oppose à l'entrée de la Macédoine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, justement à cause de son nom, d'où le compromis accepté par le gouvernement de Tsipras qui accepterait d'appeler le pays la Nouvelle Macédoine ou la Macédoine du Nord. En Israël, une double manifestation de fermeté du gouvernement Netanyahou qui a d'une part légalisé une colonie de Cisjordanie, jusqu'ici dépourvue d'autorisation, mesure présentée comme une réplique au meurtre d'un rabbin le mois dernier, tué dans une attaque palestinienne. Le gouvernement israélien qui a d'autre part décidé de raser deux salles de classe financées par l'Union européenne au profit des communautés bédouines de Cisjordanie en expliquant qu'elles avaient été construites illégalement. En Russie, les intempéries à la une, rien que de très banal a priori, mais c'est une tempête de neige inédite qui paralyse Moscou, la plus forte tempête jamais enregistrée depuis que les relevés météo existent, 43 cm en 24 heures, une personne est morte et 5 autres ont été blessés à Moscou, Jean Didier Revoin.
Du jamais vu à Moscou, plus de 40 cm de neige sont tombés sur la capitale russe en 24 heures, des précipitations qui représentent plus de la moitié de la quantité mensuelle de neige qui s'abat sur la capitale russe alors que les températures se sont effondrées. Au cours de la nuit dernière, le mercure est passé d'un degré hier soir pour atteindre moins 9 aujourd'hui, sachant qu'on attend moins 13 degrés Celsius cette nuit. Pour l'heure, les autorités ont annoncé qu'une personne avait perdu la vie en raison de la chute d'un arbre sur une ligne électrique et que plus de 360 chutes d'arbres avaient été recensées compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles. Les services de la voirie sont bien évidemment à pied d'œuvre, mais demeurent dans l'incapacité de satisfaire tout le monde. Moscou compte en effet près de 15 millions d'habitants et presque autant d'automobilistes. Ce matin, ils ont retrouvé pour la plupart d'entre eux leur voiture coincée par leur remblai de neige provoqué par le passage des déneigeuses, dont le balai a rythmé la journée. Pelle à la main, ils sont nombreux à tenter de dégager leur véhicule pendant que la neige est encore fraîche. Demain, c'est la reprise du travail et ils se préparent déjà à prendre leur mal en patience dans les embouteillages qui ne manqueront pas de ponctuer leur journée. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
De la neige qui est à venir aussi à revenir, plutôt en France, on va en parler. Mais la situation reste difficile aujourd'hui encore sur le front des inondations le long de la Seine et de la Marne. Un homme est mort dans sa maison de Villeneuve-Saint-Georges, privé d'électricité depuis plusieurs jours. Il est mort intoxiqué par les émanations de son groupe électrogène. Sa femme enceinte est dans un état stable à l'hôpital, mais elle a perdu son enfant. 11 départements restent en vigilance orange, de la Seine-et-Marne à la Seine-Maritime. La décrue, plus ou moins amorcée par endroits, devrait être plus tangible à compter de demain lundi, mais elle prendra du temps. Et en attendant, la situation reste très difficile à vivre du côté d'Elbeuf, en aval de Paris, mais aussi de Gournay sur la Marne, en amont. Ce matin, une résidence du SAMU social a dû être évacuée. Son président Éric Pliez est allé sur place superviser les opérations. Il est au téléphone de Fanny Bouvard.
On a une résidence sociale qui accueille des familles. On est sur Marne et il se trouve qu'elle est au bord de la Marne. Donc comme la Marne continue de monter, nous avons été obligés... La préfecture nous a demandé d'évacuer cette résidence ce matin. Là, ça y est, toutes les familles sont sorties. 53 personnes qui ont été évacuées par les pompiers et les services municipaux en barque, qui sont maintenant dans un gymnase à côté, à Noisy-le-Grand, et nous allons maintenant les réorienter. On a poussé les murs de nos centres d'hébergement pour pouvoir faire que les familles ne soient pas séparées, bien sûr, et soient auprès des équipes éducatives qu'elles connaissent pour cette période qui risque de durer quand même quelques jours.
Voilà, situation difficile aussi pour le Zouave. À Paris, le Zouave du pont de l'Alma qui a de l'eau jusqu'aux cuisses et qui a été équipé ce matin d'un gilet de sauvetage par les équipes du photographe Yann Arthus Bertrand, histoire de rappeler bien sûr à tous la réalité du réchauffement climatique qui ne manquera pas, selon toute probabilité, de provoquer de plus en plus de crues. En attendant, ce soir, 12 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas dans un grand quart sud-est du pays, de l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, à la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Rhône. Le plan grand froid devrait être activé en de nombreux endroits en Ile-de-France dès demain. Des places d'hébergement d'urgence supplémentaires seront ouvertes. L'association Droit au logement demande que l'ensemble des locaux vacants soient mis à disposition des sans-abri, en priorité les chambres d'hôtel, les chambres d'hôpital inoccupées comme au Val-de-Grâce, dont les activités ont été aux trois quarts déménagées. endommagée. Le président de l'association, Jean-Baptiste Hérault, appelle le chef de l'État, qui s'était engagé à ce que plus personne ne dorme dans la rue, à donner des instructions concrètes en ce sens. Et puis, en attendant, dans le cadre du plan Grand Froid dans les Hauts-de-France, des conteneurs et deux hangars vont être ouverts aux migrants de Calais, souhaitant s'y abriter pour la nuit. Le point météo complet tout de suite. Avec vous, Jean-Michel Golinski, de plus en plus frais.
Un temps de plus en plus frais en ce début de semaine, avec la nuit prochaine de fréquentes gelées vers 0-3 degrés sur les deux tiers nord du pays. Autant dire que l'air doux et humide qui remonte de Méditerranée va rapidement se transformer en neige dès les premières hauteurs, rendant les conditions de circulation difficiles en fin de nuit de l'intérieur du Languedoc et de la Provence en allant vers le Massif central et l'est du Rhône, et en particulier sur les départements placés en vigilance orange. Il neigera également à basse altitude sur les Pyrénées. En journée, les chutes de neige vont faiblir de l'Auvergne aux Alpes, mais près de la Méditerranée, les pluies vont rester marquées. Plus au nord et sur la façade ouest, le ciel sera variable avec des ondées en bord de mer. Mais passé la mi-journée, le temps va franchement se couvrir au nord de la Seine et du centre au quart nord-est avec à la clé des flocons par intermittence.
Attention donc sur les routes du dimanche soir, justement, Armel Balogog, un accident dans le Rhône.
Et oui, sur l'A46, à quelques kilomètres au sud de Lyon, dans le sens nord-sud, la circulation est complètement bloquée dans ce sens. À un kilomètre de bouchon s'est formé. En Essonne, trois voitures sont entrées en collision sur l'A6 à Viry-Châtillon en remontant vers Paris. Et la voie de gauche est neutralisée. Ça crée un ralentissement. Vous mettez 20 minutes à parcourir les 5 kilomètres en amont. Et sachez qu'il y a 13 kilomètres de bouchon sur l'A43 en Isère en allant vers Lyon des suites d'un accident. 4 kilomètres de bouchon sur l'A13 dans les Yvelines en allant vers Paris, là aussi après un accident maintenant dégagé. Et puis il y a toujours des perturbations en Occitanie. Les agriculteurs en colère bloquent l'A20 au nord de Montauban dans les deux sens depuis une semaine. Et la rocade toulousaine est aussi perturbée dans le sens extérieur, surtout au sud de la ville.
Armel Balogog au PC Mobilité de Radio France. 19h17, le sport. Avec vous, Sarah Mansoura, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Il aura donc fallu batailler ferme, mais c'est fait pour l'équipe de France de tennis.
La France se hisse en quart de finale de la Coupe Davis après avoir battu les Pays-Bas au terme du quatrième match. C'est Adrien Manarino qui donne ce point décisif aux Bleus après sa victoire en 5-7 contre Robin Haas. Un succès 4-6-7-6-7-5-6-7-5-7-5 en 4h25 de combat. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Sarah.
Vous êtes à Albertville pour France Inter. Les Français se hissent donc en quart de finale malgré les forfaits de Joe Wilfried Tsonga et de Lucas Pouille.
Et dans l'adversité, Yannick Noah vient de s'exprimer justement. L'équipe de France est allée chercher de l'énergie ailleurs. En tout cas, il est très content de ses troupes et de ceux qui ont finalement joué ce premier tour face aux Pays-Bas. À commencer par Adrian Manarino qui avait perdu le simple de vendredi qu'il a joué au pied levé hein, en remplaçant Lucas Pouille, mais qu'il a vraiment bien géré en tout cas pour le dernier simple de la journée. En tout cas, c'était le simple décisif qu'il a gagné. Donc, vous l'avez dit, en 5 manches, Adrian Manarino, qui n'avait pas encore été sélectionné en Coupe Davis comme titulaire. Il était demi-finaliste, mais comme remplaçant l'an dernier, et qui a offert un très grand spectacle face à Robin Haas aujourd'hui dans cette halle olympique d'Albertville qui était chauffée à blanc. Alors, entre-temps, c'est vrai qu'après sa défaite vendredi, Richard Gasquet avait remis les pendules à l'heure en égalisant pour les Français. Ensuite, le double hier a marqué le deuxième point toujours déterminant en Coupe Davis quand vous êtes à un partout vendredi. La paire Herbert-Mahut a donc assuré, et aujourd'hui, Manarino a évité à Richard Gasquet de livrer un ultime match décisif, et le tout sans Pouille et sans Tsonga qui, on le rappelle, ont été forfaits ce week-end.
Et donc les Français se sont finalement bien relancés depuis leur victoire en novembre.
Oui, c'est vrai, et les Français sont repartis dans une nouvelle campagne. C'était pas très évident ce week-end dans la mesure où les forfaits de Pouille et de Tsonga ont compliqué les choses. Au départ, ils partaient archi favoris face aux Pays-Bas, et finalement, dans l'adversité, eh bien Yannick Noah s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il avait peut-être un vivier assez inattendu. Alors d'abord, Manarino s'est affirmé comme un joueur potentiellement sélectionnable pour les nouvelles parties, notamment en quart de finale lorsqu'il s'agira d'aller jouer en Italie, même si la surface de terre battue ne va pas forcément convenir aux Parisiens. Mais surtout, ce qui s'est passé jeudi jeudi midi lorsqu'il a appelé trois joueurs, Manarino, mais aussi Monfils et Bento, pour venir suppléer au pied levé Jo-Wilfried Tsonga. Eh bien, Manarino a répondu OK tout de suite, mais Gaël Monfils n'a pas fermé la porte. Simplement, il est parti jouer à un tournoi en terre battue, sur terre battue à Quito. Et puis, même Julien Bento, qui était très vexé de ne pas avoir joué la finale contre les Belges et qui ne l'avait pas caché, eh bien, n'a pas fermé la porte non plus pour revenir, même si c'est sa dernière année de tennis. Eh bien, il doit revoir Yannick Noah prochainement à Paris. Donc voilà, l'équipe de France est repartie pour un tour, pour une nouvelle campagne de Coupe Davis, et pourquoi pas défendre son titre jusqu'au bout. Ce serait une première depuis les années 30, une deuxième victoire consécutive.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Prochain adversaire de la France en quart de finale, ce sera donc l'Italie qui a pris le dessus aujourd'hui sur le Japon, 3-1. Des rencontres sur terrain italien à suivre du 6 au 8 avril prochain. Au programme aussi de ces quarts de finale, Espagne-Allemagne, Kazakhstan-Croatie et États-Unis-Belgique. En tennis, toujours pas de doublé pour Kristina Mladenovic. La Française tenante du titre rate la dernière marche cet après-midi à Saint-Pétersbourg. Elle n'a rien pu faire contre Petra Kvitova. La Tchèque l'a emporté facilement cet après-midi dans un match express en 1h et 5 minutes seulement. Victoire de Kvitova 6-1, 6-2 contre la Française 10e mondiale.
En foot, la 24e journée de Ligue 1 se termine ce soir.
Et le match opposant le Stade Malherbe de Caen et le FC Nantes vient de se terminer également sur une victoire des Canets, 3-2, Bertrand Queneut.
Oui, on pouvait craindre un match fermé, Sarah, entre deux des meilleures défenses et deux des pires attaques du championnat. Et à l'arrivée, eh bien tout le contraire. 5 buts au Stade d'Ornano, un doublé et une ouverture du score signé Bamou pour les Canaries. Un pénalty de Santini et un doublé, là aussi, de Da Silva pour les Canets, le défenseur central, homme du match, mais KO les hommes de Claudio Ranieri à 10 minutes de la fin. Ainsi, quand plus mauvaise attaque de Ligue 1 en plan de 3 ce soir et respire, les Normands n'avaient plus offert de succès à leurs supporters depuis fin novembre à domicile. 9e victoire qui permet de prendre 5 points d'avance sur la place de barragiste. Coup d'arrêt en revanche pour les Nantais qui ne profitent pas de la défaite de Nice dans la course à l'Europe, mais qui conserve tout de même la 5e place du championnat.
Et un peu plus tôt cet après-midi, le Celtico, le derby breton de cette 24e journée, opposait Rennes à Guingamp. Les Guingampais l'emportent à l'arraché. Victoire 1-0 dans les arrêts de jeu grâce à un but de dernière seconde de Yannick Batoko. Au classement, les Costa-Mauricains repassent 8e à un point de leurs meilleurs ennemis. Rennes est 9e ce soir. Mais le choc de la 24e journée, la bataille en haut du classement de Ligue 1, ça se joue ce soir. L'AS Monaco, 4e du classement, reçoit Lyon, le 3e à 21h en match de clôture, avec un enjeu de taille, notamment pour Lyon, aller prendre la place de dauphin de Ligue 1, place subtilisée par l'OM vendredi après sa victoire contre Metz. Tout est réuni donc pour un duel au sommet, d'autant que Monaco et Lyon, ce sont deux équipes qui se connaissent bien, Christophe Vincent.
C'est leur 3e confrontation cette saison et les Lyonnais en sont à 2 victoires, à l'arraché, à domicile, en championnat et en 16e de finale de la Coupe de France il y a 10 jours à Louis II. Malgré leur défaite à Bordeaux, vécue comme un accident, les Gones savent qu'ils ont battu tous les gros, Marseille, Paris et bien sûr Monaco, l'attaquant Bertrand Traoré.
On bosse tous en équipe et lors des grands matchs, je pense que c'est le collectif qui fait la différence. On va là-bas pour gagner. On sait qu'on peut le faire si on joue comme on a l'habitude de jouer. Tout est possible.
Les Gones sont jeunes, moyenne d'âge 23 ans, et l'entraîneur Bruno Genesio ne veut pas les saouler avec la 2e place.
Rabâcher sans arrêt, il faut finir 2e, il faut gagner la Coupe d'Europe, il faut gagner la Coupe de France, il faut... Inconsciemment, ça met une pression supplémentaire à des jeunes joueurs qui sont peut-être pas encore prêts à assumer tout ça. Ils ont déjà suffisamment de choses à assumer sur le terrain et je trouve qu'ils le font très bien. Et c'est pas la peine d'en rajouter. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le jeu, parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera.
Du jeu, ce soir à Louis II, personne ne s'en plaindra.
Et pour l'instant, haut du classement, le PSG est toujours en tête avec 62 points, suivi donc provisoirement de Marseille à 51 points, de Lyon à 48 points et de Monaco à 47 points.
En rugby, on revient sur la première journée du tournoi des 6 nations.
Le match aujourd'hui a opposé l'Angleterre à l'Italie, les doubles tenants du titre face aux doubles tenants de la cuillère en bois. Victoire du 15 de la Rose, 46-15 sur la pelouse des Italiens qui encaissent 7 essais. Une large victoire avec bonus offensif qui place déjà l'Angleterre en tête de la compétition. Les Français, eux, ont débuté leur tournoi par une courte défaite hier. Le 15 de France s'est incliné sur le fil au Stade de France face à l'Irlande, 15-13 hier. Johnny Sexton, l'ouvreur irlandais, a marqué le drop de la victoire à la dernière seconde.
seconde. Alors les Bleus ont encore affiché des lacunes, mais il y a aussi des raisons d'espérer, Vincent Pellegrini.
S'incliner de 2 points face à la 3e nation mondiale n'est pas infamant pour une équipe de France en panne de résultats et de confiance. Hier, elle a beaucoup subi sans concéder d'essai, preuve d'une très grosse performance défensive. C'est le principal motif de satisfaction. En revanche, une nouvelle fois, les Bleus ont manqué de discipline et leur jeu offensif a été stérile. Le sélectionneur Jacques Brunel.
Il y a du travail. Il y a aussi, on est tombé face à une équipe qui a tenu le ballon longtemps, donc il y a une disproportion au niveau de la possession du ballon. On peut espérer que ce ne sera pas le cas tous les week-ends et qu'on puisse rétablir cet équilibre-là et qu'on soit capable d'entreprendre plus.
Le 15 de France n'a plus gagné un match depuis 11 mois. Une victoire à l'arraché face aux Gallois. La rencontre d'hier a aiguisé l'envie des Bleus de renouer enfin avec le succès. Le demi de mêlée Maxime Machenot.
On veut avoir le sourire dans les vestiaires après le match. On veut se congratuler parce que c'est y a que ça de vrai. On construit dans la victoire. Moi j'en suis persuadé. Il y a que ça qui doit nous animer. Donc voilà, ça va être encore un gros test la semaine prochaine en Écosse et à nous de rectifier ce qui n'a pas été pour bâtir, pour repartir de l'avant et pour montrer encore des choses positives.
Le 15 de France aura face à elle dimanche prochain une équipe d'Écosse que l'on imagine revancharde après la lourde défaite subie hier au Pays de Galles, 34-7.
Et les Bleus seront diminués déjà pour affronter l'Écosse dimanche prochain. Saison terminée pour Antoine Dupont, blessé au genou. Tournoi terminé pour Mathieu Jalibert, également blessé au genou. Le diagnostic des médecins du 15 de France ne devrait pas tarder à tomber pour Kevin Gourdon. Ils seront tous trois remplacés par Louis Picamol, Lionel Boxis et Baptiste Couillou. En Pro D2 de rugby, Perpignan s'est imposé 40-13 contre Colomiers en match de clôture de la 22e journée. Les Perpignanais enchaînent une 4e victoire consécutive et reviennent à la 2e place du classement à seulement un point de Montauban. En cyclisme, joli coup aujourd'hui pour Tony Galopin. Le coureur d'AG2R, la mondiale, remporte le contre-la-montre d'Alès et le classement général de l'étoile de Bessèges.
Et si la boxe était absente des JO de 2020, c'est ce que le CIO a laissé entendre.
Pas de boxeur à Tokyo si les problèmes de gouvernance perdurent à la Fédération internationale de boxe. Le CIO se dit extrêmement inquiet. Le président actuel de la Fédération est soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé. Son prédécesseur a déjà creusé un trou de 20 millions de dollars dans les caisses. Et l'inquiétude gagne maintenant la France qui a ramené 6 médailles de boxe lors des JO de Rio en 2016. Dominique Nathau, ancien entraîneur de l'équipe de France de boxe olympique, est plutôt inquiet.
Ça serait une catastrophe pour notre discipline sportive, qui au départ est un sport noble, qui est un des plus anciens au programme olympique et qui permet de manière universelle à tous les continents de pouvoir participer aux Jeux dans une discipline qui est facile à organiser et mettre en place. Donc tout ça nous amène vraiment au bord du gouffre et ça discrédite complètement les athlètes qui s'entraînent au fil de l'année et qui, eux, donc rêvent d'être médaillés olympiques. Et donc, je pense que c'est vraiment une très, très mauvaise nouvelle. J'espère tout simplement que ça ne restera qu'un coup de semonce et puis qu'on pourra trouver une solution.
Le comité international olympique était aussi ferme sur la question du dopage. Son président, Thomas Bach, fustige aujourd'hui la décision du tribunal arbitral du sport de lever la suspension à vie de 28 des 53 athlètes russes sanctionnés pour dopage. Le TAS estimait les preuves insuffisantes. Décision extrêmement décevante et surprenante pour le président du CIO. Et alors que les Jeux Olympiques de Pyeongchang débutent dans 5 jours, le début de compétition pourrait être gâché par de nouveaux soupçons de dopage. Plus de 50 skieurs de fond engagés à Pyeongchang ont présenté dans leur carrière au moins une fois des données sanguines suspectes selon une enquête de la chaîne allemande ARD. Selon cette chaîne, les données laissent soupçonner un dopage généralisé.
Allez, on termine, Sarah, par le Super Bowl. Toute l'Amérique devant son poste de télévision la nuit prochaine.
La finale du championnat de football américain, c'est l'événement sportif le plus attendu et le plus regardé aux États-Unis. Le match se joue ce soir, enfin cette nuit pour nous, à Minneapolis, dans le Minnesota. Et il oppose les Patriots de New England aux Eagles de Philadelphia. Un show typiquement américain, mais il y aura au moins un Français dans le stade. Lionel Hahn, c'est un photographe installé à Los Angeles, Loïc Pialin.
Oscar, JO, Coupe du Monde, Lionel Hahn a couvert les plus grands événements de la planète pour l'agence Abaca et l'équipe. Au Super Bowl, ce fan de rugby est souvent le seul photographe étranger sur le terrain.
Bien sûr, t'es privilégié parce que ce n'est pas mon pays, ce n'est pas ma culture. Et quand j'en parle à chaque fois à des amis proches américains que je suis au Super Bowl, c'est comme si je décrochais le Graal tous les ans.
Son meilleur souvenir remonte à un dimanche pluvieux de 2007. Pas le match, mais le concert de Prince à la mi-temps.
Et là, c'est juste magique. Et quand il attaque Purple Rain sous la pluie battante, le stade s'arrête. Le stade s'est vraiment arrêté.
Contrairement à notre football, les médias peuvent rentrer sur la pelouse dès le coup de sifflet final. À chaque fois, une sacrée montée d'adrénaline.
Et là, c'est la course. Et là, vaut mieux avoir des objectifs très grand angle, parce qu'on se retrouve, mais quand je dis nez à nez avec les stars, c'est nez à nez. On se retrouve poussé par les autres photographes, les autres caméras. Tout le monde veut le quarterback, vedette. Et ça, ça se fait dans les deux premières minutes. Vraiment, les meilleures photos, c'est dans les deux premières minutes.
Aujourd'hui, son objectif 600 mm sera braqué sur Tom Brady. La superstar de New England vit son 8e Super Bowl, un record pour un joueur. Lionel, lui, en est à 15. À Los Angeles, Loïc Pierrat pour France Inter.
Et pour suivre cette rencontre, il faudra vous coucher très tard ou vous lever très tôt, c'est selon. La soirée commence à minuit 30, heure française, et dure près de 4h30.
C'était le journal des sports de Sarah Mansoura. Merci beaucoup.